Polysécure spéciale actualité au 14 décembre 2025. Nous approchons la fin de l'année. C'est assez rock'n'roll. Shameless Plug, 25-26 février. Le Sécure revient. Le Coffee River dans les show notes. Nous avons quelques bons conférenciers déjà sélectionnés. Nous avons très hâte de commencer à vous pouvoir les diffuser. 14 au 17 avril, le BotConf. Le 28 au 29 avril, le Cyber-Éco-Cyber-Conférence. 9 au 17 mai, le NordSec à Montréal. 3 au 5 juin, le Styx, que j'espère ne pas rater les inscriptions cette année. On va faire un gros effort. Un gros effort. Beaucoup de nouvelles. Fait que ça va aller, ça va descendre assez vite. Et je crois qu'on ne manquera pas de job pour l'avenir qui nous est. Puis probablement pas pour les bonnes raisons d'ailleurs. Là. En tout cas, bref. On va voir ce que vous allez voir avec les nouvelles que j'ai sélectionnées cette semaine. Première section sur l'intelligence artificielle, surfer tout ce qui est du côté des agents AI inclus dans les navigateurs, soit de façon Comet ou Atlas, qu'on a vu chez Perplexity notamment, et l'autre chez OpenAI, si je ne me trompe pas, qui sont un volet, et l'autre, l'ajout d'agents qui sont mis en place. Tout ça, toute cette intégration-là crée certains éléments. Gartner dit ne faites toucher VisiPoke littéralement. À moins que vous ayez vraiment besoin ou vous ayez vraiment un cas d'utilisation qui est bien encadré, c'est dangereux, ça va pas bien. Et pour donner suite à ça, ben Google, qui a ajouté son Gemini dans son navigateur Chrome, rajoute un deuxième AI par-dessus pour contrôler ce que le premier fait. On est rendu dans un contexte de simili-absurdité, en tout cas du moins à ce statut, pour quelqu'un qui n'est pas tant connecté ça dans le monde du AI, de devoir mettre un agent pour contrôler l'agent. Déjà que les agents sont très coûteux en énergie, si on en met deux, ça devient comme un peu démesuré par rapport à le bénéfice qu'on en obtient vraiment et à savoir comment tout ça va se réaliser. Et c'est peut-être une façon de voir comment l'esprit humain fonctionne à travers ça. Bref, si vous devez y aller, allez-y, mais sinon, touchez-y pas, c'est excessivement dangereux comme chose, autant au niveau de délibération. Puis il y a des suggestions de solutions dans les différentes nouvelles que j'ai sélectionnées cette semaine, que dans la même lignée, c'est genre j'ai une autre section, plus une sous-section de se tirer dans le pied. Gemini Enterprise permet d'accéder à de l'information, faire fuiter de l'information sensible. J'avais déjà revenu plusieurs fois, ça revient encore des nouvelles. Clairement, c'est un sujet qui n'est pas fini. Le problème est réglé, mais il va y en avoir d'autres qui vont revenir, là, autant chez Copilot que chez Gemini. Le fait que ces agents-là soient connectés directement avec le contenu du tenant dans lequel toutes les informations des utilisateurs se trouvent, ont accès à énormément d'informations et sont ultimement faciles à attraper et à voir comment faire pour aller chercher plus loin l'information de l'entreprise que par un simple courriel qui donne des instructions à d'autres méthodes un peu plus sophistiquées, mais qui quand même contourne les différentes mesures qui sont en place. Il y en a d'autres, il va en avoir d'autres. Ça continue, puisque l'imagination des attaquants ne se limitera pas jusque-là. Et la même chose de l'autre côté, les agents Copilot AI, le même genre de problème. C'est préférable d'utiliser un élément de visibilité, puis on va le voir dans une autre nouvelle, mais en même temps, le fait qu'on est capable de mettre dans les mains des utilisateurs, puis ça revient un peu à ça, le message de Gartner aussi, mettre dans les mains des utilisateurs qui ne connaissent pas ça, qui ne savent pas dans quoi ils s'embarquent, puis avec le risque qui s'encourt avec l'usage du AI, je pense que c'est de mettre une arme trop puissante dans les mains de gens un peu méconnaissants de la situation. Donc, c'est comme de mettre des gens qui n'ont pas suivi de cours de conduite sur la route. Ça cause des problèmes. On l'a vu au Québec, notamment, quand ils ont retiré l'obligation des cours de conduite avant l'obtention du permis, le niveau d'assurance a explosé puisque les assureurs ont remarqué une augmentation des accidents, et c'est pas des chiffres qui sont biaisés, c'est vraiment eux ont vu, donc ils ont réagi en augmentant les primes d'assurance des gens qui n'avaient pas suivi de cours de conduite au préalable. Donc c'est vraiment dans cette perspective-là. Le AI, c'est un peu la même chose, c'est le même niveau de danger, donc peut-être que des cours ou une formation préalable serait peut-être nécessaire avant de donner accès à des éléments plus puissants de ce fonctionnement-là, puis ça ne vient pas réduire la qualité et ce qu'on peut faire avec, mais quand même, il faut que les gens soient plus prudents. Et comme une auto, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas aller dans l'eau, par exemple, à moins d'avoir une auto-amphibie, mais la plupart des gens n'ont pas d'auto-amphibie. Fait que donc, de savoir ces quelques éléments-là, je pense, sont assez fondamentaux pour le fonctionnement. Clickfix, celle-là, par ça, j'ai mis dans la section du AI, parce que maintenant, c'est rendu que les attaquants injectent des fausses publicités qui laissent à croire que c'est du ChatGPT ou Grok ou peu importe qui parle et qui donne des recommandations à l'utilisateur pour se régler un problème qu'il a cherché sur Google notamment, dont je manque d'espace sur mon disque. Et la réponse à ça, c'est une réponse de type ClickFix qui donne à l'utilisateur un script. Dans ce cas-ci, c'est sur Mac, mais c'est aussi valide sur Windows, d'exécuter des commandes qui sont toxiques à la limite jusqu'à à installer un logiciel malveillant soi-même sur son propre poste avec la bénédiction de l'utilisateur. Donc, de réussir à tromper l'utilisateur pour faire ce genre de choses-là. Ce qui, en même temps, est un bon signe que nos mesures techniques elles-mêmes sont assez résistantes, donc on n'est plus capable de facilement propager sans l'intervention de l'utilisateur. Mais quand même, il faut éduquer l'utilisateur qui, clairement, ne comprend pas la portée de ce qu'il fait. Donc, s'il fait des choses qu'il ne comprend pas, il faudrait l'informer. Et ce serait un message, si vous pouvez parler dans vos familles durant les temps des fêtes, de savoir propager. Si vous avez des commandes qui disent d'aller dans d'exécuter des commandes dans un terminal noir, faites pas ça, c'est dangereux. Évitez ce chemin-là, puisque si, à moins que vous ayez la connaissance, il est fort probable que ça ne tourne pas bien ce qui va se passer. Dans le même espace aussi, en l'autre sous-section, c'est OverTheTop. Ça explose, il y en a eu beaucoup dans les dernières semaines, ça continue. Là, c'est OpenAI qui dit que son modèle va poser un haut risque de sécurité. Il y a une étude universitaire qui dit que les AI hackers sont quasiment rendus au même niveau que les humains et tout ça. Fait qu'on est encore dans une continuité des virus qui vont avoir ça et tous ces éléments-là. Allez voir les nouvelles en question, puis c'est très intéressant de voir à quel point ce que OpenAI dit est complètement vague et probablement plus marketing qu'autre chose. Mais c'est pas faux non plus de dire que ces moteurs-là sont de plus en plus utilisés pour créer ou faire des gestes toxiques. Donc, de là, effectivement, ils vont aider les méchants. Et comme le volet, l'étude, je pense que c'est Stanford qui l'a fait, il y a des canevas très importants. Il faut aller voir l'analyse complète parce que sur des choses qui sont complètement évidentes, le AI n'a pas vu. Sur des choses qui étaient plus complexes, vu où il s'est attardé à des pages en particulier et pas l'ensemble. Bref, sa capacité demeure quand même, somme toute, limitée, même si c'est intéressant de l'aborder comme ça. Et dans les deux cas aussi, il faut remettre en perspective que les vrais attaquants ne sont pas comme des pentesters ou des red teamers. Ils ne vont pas casser. Puis j'en ai souvent abordé, notamment avec Charlie Minton, c'est un avec qui qui a été très vocal sur ce genre de choses-là, puis avec qui on l'a abordé. Les attaques synthétiques des red teamers sont rarement réutilisées dans un avenir très proche par les attaquants standards. Si on veut, des fois, ça va prendre 7, 8, 9 ans avant que les attaques développées par les Red Teamers vont être utilisées dans la nature, comme on pourrait dire. Et donc, d'être très prudent sur cette analyse-là. Fait que c'est très drôle de dire ce genre de choses-là, mais il demeure qu'on est dans un environnement synthétique et qui n'ont pas de représentation réelle. Et ce qui a été vu jusqu'à présent pour les virus sur base de AI, ça a aidé les attaquants à en créer. Ça l'a probablement accéléré certains traitements ou multiplié leur capacité de travail, mais encore là, avoir du code autonome qui se promène et qui prend des décisions. On est encore très, 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 très loin de ça et ce n'est que des recherches pour le moment. Donc, clairement, le milieu académique est plus intéressé par les attaques que les attaquants eux-mêmes, puisque clairement, il n'y a pas d'appétit, puisque les moyens actuels fonctionne très bien. Pourquoi aller chercher des modèles ou des façons plus compliquées qui fonctionnent déjà très bien dans l'environnement? Ils se font déjà pas mal d'argent. Fait que si on a réussi à régler les problèmes des click fix bien avant les problèmes de AI qui attaquent tout seul, je pense qu'on améliorerait beaucoup notre situation et de façon assez significative. Il y a des directives au niveau américain émises par CISA, VBI et tout ça pour l'usage du AI dans les infrastructures critiques. Cet article-là, je l'ai mis là parce qu'il me laisse très perplexe parce que, somme toute, j'ai rien appris de nouveau dans ce qu'elle a. Il dit faites attention, soyez prudent, assurez-vous de la disponibilité et tout ça. Fait que, dans le fond, c'est comme dans n'importe quel projet, puis le AI n'est pas différent de ça en ce sens-là. Soyez prudent, regardez la technologie, analysez-la, avancez avec. Prenez ce qui est bon, écartez ce qui est mauvais, puis mettez en place pour pas que ça vienne diminuer la qualité du service qui est offert. Puis c'est à peu près ça qui devrait être ça. Mais je trouve ça très intéressant, cette vague-là de vouloir réinventer la roue sur des choses qui existent déjà, sur des principes qui existent déjà à bien des égards. Donc, je suis un peu fasciné par ce genre de choses-là, mais quand même, c'est un rappel. Ça, je l'ai mis là aussi. C'est pas un rappel qu'il faut être prudent parce que beaucoup de gens oublient d'être prudents. Il y a beaucoup de gens qui touchent à ces technologies-là qui n'ont pas la connaissance suffisante. Là, je parle d'avoir un permis, des choses comme ça. Ben, ça en fait partie. Ceux qui ont été formés en sécurité notamment, ou qui ont de l'expérience, sont capables de voir naturellement ces choses-là. Les gens l'ont, les autres ne l'ont pas. Et le AI amène dans les mains, comme le no-code voulait le faire, l'amène dans les mains des gens plus grand public qui n'ont pas de formation en TI ou en SI, cette capacité-là d'être plus autonome et de ne plus dépendre des gens en TI et SI. Ce qui n'est pas mauvais d'un côté, mais en même temps, il faut que les balises soient suffisamment en place. Dans le no-code, il n'y en avait pas. Dans l'AI, il n'y en a pas pour le moment. Fait que tant qu'aussi longtemps que ces balises-là ne seront pas présente dans ces outils-là, ben, j'ai un énorme malaise de suggérer à mes parents d'utiliser ça pour automatiser leur maison ou leur vie quotidienne, puisque le danger qui est associé est encore trop grand par rapport aux bénéfices qu'ils peuvent en tirer, même si certaines petites tâches cléricales pourraient être automatisées de d'autres façons. Nouvelle suivante, il y a un AI pour aider les audits, les checklists d'audit. C'est intéressant, j'ai lu l'article un peu, allez le voir. Je n'ai pas été renversé, mais d'avoir des outils d'aide à la rédaction, aux questions, des choses comme ça, ça peut toujours être utile. Ça ne nuit pas, mais pour un auditeur d'expérience, je ne suis pas sûr qu'il va tirer beaucoup de bénéfices de ces éléments-là, plus que ça va être des auditeurs moins expérimentés qui vont toucher à ça. Et l'autre problème, c'est que si des auditeurs moins expérimentés, ben même si avec l'AI, ils ne seront pas capables de détecter les folies qui vont sortir de celui-ci, donc va quand même créer des potentiellement des problèmes ou des vides au niveau de la grille d'audit qui va sortir pour les différentes normes qui sont validées. Autre nouvelle, dans ce cas-ci, c'est le AI qui est utilisé pour auditer du code au niveau des satellites par la NASA. Donc, on a découvert une quarantaine de vulnérabilités en 4 jours, quand après 3 ans de vérification humaine, n'avait pas trouvé. C'est intéressant de le voir. C'est là qu'on voit aussi que ça devient des outils très puissants parce que les analyses statistiques sont capables de voir ce que l'esprit humain ne voit pas. Et comme ils travaillent en continu, ont l'avantage de pouvoir cruncher une très grande quantité d'informations en peu de temps par rapport à ce que l'esprit humain est capable de faire. Donc, oui, on a des gains, mais ça ne remplace pas les humains dans la vérification. Puis ça ne remplace pas les humains dans la conception d'un code qui est sécuritaire aussi. Je ne vais pas dire que le code qui était utilisé par la NASA et par d'autres grandes organisations était pourri, mais le fait de peut-être pas avoir la rigueur nécessaire pour la conception du code peut nous amener dans des contextes de vulnérabilité qui étaient trouvés statistiquement par ces outils-là. Ça amène des gains, donc ça, il ne faut pas le renier. Ça s'ajoute à la trousse d'outils qu'on peut avoir pour améliorer la qualité du code. Du code qu'on a du côté des bons, parce que les méchants, eux autres, ça fait longtemps qu'ils ont compris qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer. Nouvelle façon de prompt injection par les serveurs MCP pour drainer des informations, des choses comme ça. Ça revient souvent au point, puis là, il y a un podcast avec Nick Taylor que vous avez écouté qui est très intéressant aussi, qui amène des éléments supplémentaires de vérification de sécurité pour lequel lui travaille, puis c'est très, très intéressant. Mais ça l'amène aussi le fait que le modèle lui-même n'a jamais été réfléchi comme étant un agent autonome au sens où, comme un humain. Parce que l'humain, on a quand même un certain nombre d'a priori qui fait qu'il y a des gestes qu'on pose pas ou on a appris à ne pas faire. Le AI les a pas appris, donc on va faire à peu près tout et n'importe quoi et est sensible à peu près à l'injection. Dans ce cas-ci, c'est que les MCP injectent des commandes soit invisibles ou soit de toute façon qui vont amener dans d'autres circonstances. C'est pas super nouveau comme concept, c'est pas... Et encore là, ça revient au fait que si on fait confiance à un étranger avec nos données, ben on les a données, nous. On lui a fourni nos données, donc on est un peu foutu par rapport à ce genre de choses-là. Nouvelle suivante, botnets, les humanoïdes, les robots humanoïdes. Ça inquiète beaucoup les gens en cyber, avec raison, puisque les robots, comme on va les voir apparaître, ne sont que des ordinateurs sur pied, essentiellement. Donc, tous les problèmes qu'on voit avec les ordinateurs qu'on a à l'heure actuelle, on va les retrouver dans ces robots-là également. Donc, les problèmes de vulnérabilité, les problèmes de configuration, les problèmes, tout ça, et si on ajoute le AI dedans, on voit le AI très peu stable pour le moment ou très peu sécuritaire en ce sens-là, mais on s'amène à des contextes de risque très importants. Il va falloir mettre à jour nos robots avec un nouveau firmware, des choses comme ça. Et sachant que la plupart des gens ne le font pas super bien, pas tout le temps dans les temps, sont un peu lâches là-dessus, mais on va se retrouver avec des robots avec des versions désuètes, vulnérables, qui vont se faire hacker, dans lesquels on va faire sauter les guardrails de sécurité, mais donc vont nous amener à une série de problèmes qui vont multiplier. C'est amusant, mais clairement, les gens n'ont pas écouté assez de science-fiction, parce que dans la science-fiction, on l'a largement abordé ces éléments-là. Donc, c'est un peu fascinant qu'on se dirige les yeux fermés dans tout ça et sans voir les dangers qui sont devant nous. Mais bref, comme je vous mentionnais, on a encore de la job pour longtemps, puis pas pour les bonnes raisons, mais ça en fait partie parce qu'on n'apprend pas des erreurs du passé puis on les répète de façon quand même assez importante. Schneier propose une façon de bâtir des agents de confiance. C'est 8 principes très intéressants. Il y en a plusieurs qui ont été développés, il y en a fait partie. Donc, de s'assurer toujours de ce que c'est, mais en même temps, ça revient beaucoup de gros bon sens à bien des égards. Fait que tous ceux qui ont appliqué moindrement des éléments en cybersécurité ou en sécurité tout court, on est déjà familier avec la plupart de ces éléments-là. Donc, on fait juste les remettre dans une formule expressément pour le AI avec un agent autonome qui fait ce genre de choses-là. Microsoft va bundler Copilot, Security Copilot avec licence E5 de M365 pour permettre justement une même plus grande adoption de cette technologie-là avec des ratios, des éléments comme ça. Donne un tiers gratuit aussi pour inciter les gens comme un pusher de nous faire consommer le service, à quel point il est bon, puis de pouvoir avancer. Personnellement, je n'ai jamais essayé, fait, je ne peux pas évaluer. Si c'est similaire à ce que j'ai vu chez Google il y a quelques années, quand je suis allé dans un de leurs événements, ça pourrait être potentiellement très intéressant et améliorer la capacité des équipes à avancer beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement en cyber, surtout qu'on n'a pas autant de gens que ça. Surtout que je crois que c'est la semaine passée, des nouvelles qui sortaient comme quoi en Europe, ils ont des problèmes de nombre de candidats, puis on prend des problèmes de rétention, des choses comme ça. Donc, dans des environnements comme ça où c'est très rare, c'est très difficile d'avoir des employés en cybersécurité, ben, c'est toujours utile d'avoir des outils comme ça. Sauf que M365, Microsoft, c'est le diable en Europe pour le moment. Donc, on va voir, mais les investissements qui sont faits vont peut-être atténuer un peu les inquiétudes des Européens et les Canadiens aussi, puisque Microsoft a promis des investissements assez massifs au Canada d'ailleurs pour un peu atténuer les inquiétudes par rapport à la souveraineté numérique. D'ailleurs, que je n'aborde pas cette fois-ci, il n'y a pas de nouvelles qui parlent de souveraineté dans cette semaine. Dernière nouvelle du AI, Privacy Firewall, un projet open source, c'est un plugin dans Chrome qui va justement filtrer les informations qu'on envoie à ChatGPT, Gemini Cloud, et justement qui fait un filtre de type DLP pour s'assurer qu'on n'envoie pas des informations qui sont protégé par l'organisation. C'est une version open source. Fait que c'est bien, c'est pour monsieur et madame tout le monde. Il existe des versions payantes ou des versions plus complètes qu'on peut déjà plugger dans Chrome du côté de Google Workspace ou dans Edge du côté de Microsoft M365, dans lesquelles on peut déjà contrôler un bon nombre d'informations beaucoup plus loin que juste du protéger le AI, parce que dans le fond, c'est de la fuite d'informations classique. C'est juste qu'on a la place de le mettre dans un Dropbox, mais on le met dans ChatGPT. Donc, c'est juste la direction, l'endroit où on le dépose, l'information sensible de la compagnie. Donc, ces outils existent. Il existe un open source pour monsieur et madame tout le monde qui voudraient limiter et se prémunir contre des fuites de données qu'ils ne voudraient pas avoir à la maison. Ou pour les PME qui n'ont pas les moyens de se payer les gros services de DLP qui sont disponibles, d'avoir ce service-là de déployer sur les machines de tous vos employés. Pour limiter les dommages potentiels qu'ils pourraient faire en utilisant du AI de façon non contrôlée. Section suivante, Red est assez grande aussi cette semaine. Il y a vraiment énormément de choses. Des paquets malicieux dans le dépôt de Go existent qui utilisent une erreur de typo pour tromper les utilisateurs pour downloader une bibliothèque qui est toxique. Je vous invite à aller réécouter l'épisode avec Garance qui, justement, aborde beaucoup de ces éléments-là à l'intérieur. Comment faire attention avec Go pour faire justement pas tomber dans ce type de piège-là et comment ces pièges-là existent et qu'est-ce qui sont les pièges dans l'univers de Go pour vous protéger. Fait que très intéressant à les réécouter. Celui-là, il est déjà d'ailleurs très récent par rapport à la diffusion de celui-ci. Nouvelle suivante, Ransomware vient packager des choses pour contourner les EDR, donc c'est rendu de plus en plus commun de déployer des outils de de contournement de DA. J'en fais plusieurs fois, j'en parle avec Charles Minton. Plusieurs éléments intéressants comme ça. Celui, dans ce cas-ci, c'est le service de Packer qui utilise un driver signé, vulnérable, qui installe. Une fois installé, exploite la vulnérabilité et tue le DR au passage. Fait que c'est une des façons de faire. Mais celle-ci est industrialisée, c'est-à-dire qu'il y a un groupe criminel qui l'utilise, qui le fait et qui l'utilise clairement, allègrement et qui revend ce service-là. Donc, c'est de plus en plus présent ce type de d'approche-là, de se débarrasser de cet équipement-là. Pourtant, qui est très utile, puis on va le voir plus loin dans d'autres nouvelles à quel point cette pièce d'équipement-là est assez fondamentale dans notre capacité de protéger nos infrastructures. Les chercheurs ont observé une augmentation de 700% d'attaques sur les hypervisors, dont notamment VMware et Hyper-V. Cette attaque-là est très intéressante, puis elle ramène à une présentation que j'ai faite il y a plus de 20 ans de ça, justement quand la virtualisation est en train de monter en popularité, à quel point on est capable de remonter dans les systèmes d'exploitation à partir du système hôte. Donc, dans ce cas-ci, c'est exactement ce qui est fait, c'est que les attaquants vont trouver une façon d'aller attaquer le VMware ou l'Hyper-V. Et une fois qu'on a contrôlé la couche de virtualisation, c'est très facile de remonter dans les systèmes d'exploitation qui sont gérés par cette couche de virtualisation-là et de faire à peu près tout et n'importe quoi dans les machines donc, et de contourner tous les équipements les logiciels de sécurité qui pourraient être installés dans ces équipements-là. Donc, soyez un patché, mettez à jour votre couche de virtualisation et surveillez-la comme n'importe quel autre équipement dans votre infrastructure, justement pour s'assurer qu'il n'y a pas des manœuvres étranges qui se font et qui permettent justement aux attaquants de remonter. Une autre façon de contourner les EDR, c'est de passer par l'hypervisor parce que les machines guests ne peuvent pas voir ce que la machine haute est capable de faire sur eux, donc une perte de visibilité sur ces éléments-là. Donc, c'est très intéressant. Puis, c'est intéressant que après que j'ai fait la présentation il y a 20 ans, on voit maintenant apparaître des choses vraiment comme ça qui étaient vraiment purement théoriques à l'époque, mais maintenant qui se sont matérialisées. Nouveau botnet de Mirai, qui s'appelle Broadside, attaque beaucoup les systèmes de caméras des bateaux, notamment, sont assez efficaces, vont être capables de faire plusieurs choses. Ce qui est intéressant là-dedans, puis c'est pour ça que je l'ai mis dans mes nouvelles, le niveau technique de ceux qui ont conçu cette nouvelle variante-là est assez sophistiqué parce qu'il y a vraiment une forme d'intelligence, si on veut, dans la façon qu'ils se placent et qu'ils se mettent en œuvre. Donc, on est dans un contexte d'évolution de la capacité des groupes d'attaque qui sont capable maintenant d'être un peu plus subtil, si on veut, dans la façon de faire et de monter les attaques. Dans ce cas-ci, va trouver une façon de rentrer par le système sur des équipements. Le Mirai, c'est plus des équipements réseau, notamment, pas exclusivement, et dans lequel ça va rentrer et justement se placer. Fait qu'il y a un degré de sophistication qui a augmenté. C'est intéressant à voir et de nous préparer à ce genre de situation-là dans laquelle on s'en va vers l'avant. Plus de 700 guides auto-hébergés se font attaquer par une faille 0D essentiellement et permet de rentrer dans le système. Puis il y en a quand même un certain nombre. C'est assez inquiétant. Toutes les gens qui hébergent des données, des informations sur des guides perso, ou en ce cas perso, ou hébergés par eux-mêmes, ou hébergés par un hébergeur tiers, et qui se font casser la confiance qu'on peut avoir, le code qui est là, s'il n'a pas déjà été infecté par d'autres choses, si on peut aller chercher d'autres informations. Et ça l'amène à la nouvelle suivante, où Flare, une belle compagnie de Montréal, a repéré à peu près une dizaine de mille d'images Dockers qui ont des mots de passe, API key inclus dedans, donc qui diffusent à la planète entière toutes les informations qui leur permettent d'accéder à des composants un peu plus privés dans ce cas-ci. Donc, un autre élément de recherche très intéressant ce côté-ci, et puis à quel point on manque d'éducation. Puis c'est une autre chose, je vous dis, on va avoir encore de la job longtemps. Le manque d'éducation qu'on a ou la capacité de partager notre connaissance avec les développeurs notamment, ben ça c'est des beaux exemples dans lesquels on aurait un peu raté notre coup sur notre capacité de transmettre notre connaissance et de partager avec eux pour qu'ils puissent justement aborder des meilleures pratiques de sécurité. Infoblox mentionne une technique d'attaque sur les marchés canadiens. Le marketplace canadien, ben, pas marketplace au sens Facebook, mais dans les places où on vend des choses entre personnes. Marketplace en est un, mais il y en a d'autres. Où il y a une fraude Interac qui est très présente. Je l'ai vue de mes yeux. Elle est franchement très impressionnante en termes de qualité de setup qui est mise en place. Tout est crédible. Et n'importe qui n'est pas familier avec ça va se faire avoir, c'est sûr. C'est tellement bien fait. C'est tellement propre. C'est liché. Là. C'est vraiment léché. C'est assez impressionnant. C'est arrivé dans ma famille. Ils ont eu le réflexe de me poser la question et j'ai repéré rapidement. Autrement, ils se seraient fait avoir parce que le workflow pour le paiement Interac, pour ceux qui sont habitués, était assez bien suivi avec les bonnes images, avec les bons messages. Donc, c'était vraiment tenu par la main jusqu'à temps que le fraudeur puisse récupérer l'information, c'est vraiment important. Fait que c'est aussi partagé dans votre entourage dans le temps des fêtes pour vous assurer que votre famille ne tombe pas dans des pièges de ce type-là de transfert Interac qui pourrait justement le faire perdre de l'argent malheureusement. Kali Linux, nouvelle version, plusieurs nouveaux outils. C'est toujours en évolution, c'est toujours vivant. C'est intéressant de voir. Ça date là, de très longtemps, cette distro-là qui permet justement de mettre dans les mains des pentesters, un bon bundle d'outils plus facile d'accès, déjà tout préparé. Donc, accélère un peu le traitement pour ceux qui ne veulent pas nécessairement se monter un toolbox plus privé. Dernière nouvelle de cette section-là, Apple corrige deux failles dans son WebKit essentiellement. Failles critiques en utilisation sur des attaques ciblées. Fait que si vous avez des appareils Apple, téléphone, tablette ou ordinateur, mettre à jour le plus rapidement possible justement pour vous prémunir contre ça. C'est encore des attaques ciblées, fait que c'est pas grand public, mais le passage d'un à l'autre est jamais très long, malheureusement. Donc, de vous prémunir contre ce genre de choses-là. Section bleue, Windows PowerShell va maintenant afficher un message d'avertissement quand il y a du téléchargement qui se fait. Quand je mentionnais le click fix tantôt, ça, c'en a un élément de correction, mais comme on a entraîné nos utilisateurs à ne pas écouter ou pas lire les messages de sécurité ou de quoi que ce soit, puis de cliquer sur n'importe quoi, en notant que ça fonctionne, je pense que cette approche-là n'est pas suffisante pour régler le problème du click fix, essentiellement. Si les gens, on les a, notamment avec les délais pour voir dans, en tout cas, on les a habitués à pas lire, puis pour ceux qui ont fait moindrement du support utilisateur, quand on demande justement à l'utilisateur quel message qui est fait, qu'est-ce que vous avez cliqué, ils s'en rappellent pas, puis ils ont cliqué n'importe où. Donc, je pense que c'est pas la bonne stratégie à prendre pour limiter ce type de problème-là. Je reviens un peu sur ce que j'avais lu il y a quelques semaines. Il faudrait littéralement faire disparaître le menu exécuté de la barre de Dash Windows, justement pour limiter ce type de problème-là, pour ce qui est de l'environnement Windows, puis l'équivalent pour Mac, parce que je pense qu'au-delà de ça, on ne réussira pas à limiter ce problème-là de cette façon-là. Et d'ailleurs, la nouvelle suivante là, qui chiale sur le deep infection dans le TLS, puis justement avec raison, amène de bons arguments. Vous irez lire le plaidoyer de la personne. Je trouve très intéressant parce qu'effectivement, commencer à casser le TLS crée bien un problème. Ceux qui ont touché moindrement de la crypto savent que c'est pas très stable, ces éléments-là. C'est très compliqué de s'injecter dans une communication chiffrée comme celle faite par TLS parce qu'elle est très résistante à l'injection comme c'est fait là. Le man in the middle. Et ça vient tout déstabiliser. Et de toute façon, comme on a habitué nos utilisateurs à cliquer justement sur les certificats qui sont pas à jour. Bref, on a utilisé nos utilisateurs, comme je mentionne la nouvelle suivante, à cliquer sur OK, puis d'essayer de passer à travers sans vraiment lire ou sans vraiment faire des choses. Bien, on a créé aussi d'autres problèmes comme ça. Et ça aussi, ça en est un, le fait que tous ces problèmes de briser de TLS vont nous amener dans une autre situation qui va aller plus loin. Et de ce côté-là, on est beaucoup mieux de mettre des senseurs comme les ADR sur les postes, sur les endpoints, sur les navigateurs, parce qu'on peut mettre ça sur Chrome Piège, on peut mettre de la télémétrie. Donc, de ramener tous ces éléments-là puis des consommer localement avec une certaine logique et centralement avec des éléments plus de consolidation, là, notamment comme SIEM ou XDR. Donc, de réussir à ramener ça et de rechanger un peu la stratégie, puisque clairement, on on répète de vieilles habitudes, puis on arrive nulle part avec ça, puis clairement, on n'est pas capable de rien résoudre, et on se crée juste des problèmes, puis on fait juste s'empiler des choses de complexité qui ne règlent pas le problème fondamental. Peut-être qu'on ne se pose pas les bonnes questions, essentiellement. Puis il faudrait peut-être se poser les bonnes questions pour qu'on peut-être avoir, peut-être un peu réduire notre sécurité d'emploi, mais quand même de régler le problème de façon majeure, parce que socialement, pas socialement, mais de façon sociétale, c'est un énorme problème, ce qu'on vit avec les technologies peu matures qu'on a dans les mains, qu'on met dans les mains des utilisateurs peu connaissants. Nouvelle suivante, pourquoi c'est impossible de bloquer iMessage dans les différentes façons, différents pays, parce que les pays l'ont essayé présentement. La Russie a bloqué le FaceTime, a bloqué beaucoup de choses, mais n'est pas capable de bloquer iMessage. La Chine, la même chose. D'ailleurs, c'est pas capable de bloquer iMessage. C'est parce que Apple a constitué le volet texte de iMessage sur son protocole de notification. Un peu comme les SMS étaient utilisés pour véhiculer beaucoup d'informations sur la communication et en s'en sont servis pour faire du texte. Bien, Apple a fait un peu la même chose, mais je pense de façon liée. Quand ils ont développé son protocole de notification, les enfants, les tout ce qu'on reçoit, bien, ils ont mis le volet message dedans, ça c'est en 2011. Et c'était probablement aussi pour éviter que les compagnies de cellulaire bloquent à l'époque cette messagerie-là, parce que probablement ça rentrait en compétition avec le SMS et ainsi de suite. Donc, ça avait été conçu comme ça à l'époque. C'est pour ça que c'est impossible à bloquer maintenant et que les pays comme la Russie qui essaient de bloquer la plupart des éléments, des moyens de communication occidentaux ne sont pas capables de bloquer ça parce que ça va venir bloquer le fonctionnement même des notifications qui sont en place. Et pour ceux qui ont pris l'avion et qui sont dans avec des Wi-Fi qui permettent dont l'échange de messagerie de base, des éléments comme ça, ont dû constater que toutes les notifications sur les téléphones iPhone rentrent même si le service associé n'a pas d'accès réel à Internet à travers le Wi-Fi de l'avion. Donc, c'est vraiment juste pour ça, parce que ça s'inscrit dans cet élément, dans cette structure-là. Et c'est un des éléments de structure qui n'est pas bloqué nulle part, parce que justement, c'est fondamental au fonctionnement des notifications qu'on reçoit sur les iPhones. Le volet industriel aurait besoin d'un développement sécuritaire. C'est un secteur complet qui a été un peu ignoré, qui vit sur des marges qui sont généralement minuscules, qui n'ont pas énormément d'argent à mettre en TI ou en SI. Donc, sont souvent ciblés avec des attaques. Ils ont souvent des vieux équipements aussi, pas parce qu'ils sont négligents, mais parce que des équipements industriels vont coûter généralement plusieurs millions de dollars et on ne réachète pas ou réinvestit pas à toutes les deux ans parce que la technologie est 18. Donc, c'est des technologies qui durent excessivement longtemps. J'avais déjà fait mention que c'était peut-être mieux d'avoir des équipements Linux sur ces équipements-là parce que le fait d'avoir des XP qui vivent encore et le fait même que tant aussi longtemps que la machine industrielle fonctionne, il n'y a aucune raison de se débarrasser du logiciel qui lui permet son fonctionnement. Donc, il n'y a pas de logique de ce côté-là, contrairement à ce qu'on voit. Donc, ça serait peut-être de ramener une réflexion. Mais bref, dans ce cas-ci, ils sont mal aimés, comme d'habitude. Donc, il y aurait besoin de beaucoup d'amour pour régler les problèmes de développement, de chaîne d'approvisionnement, logiciel notamment, de tout s'assurer que leur environnement est de plus en plus robuste pour pas qu'ils soient pris dans des chaînes d'attaque et qu'ils soient pris au passage sur ce genre de choses-là. Article de Insider sur le biseau. C'est un concept qui est assez vieux, du moins en Amérique du Nord, qui est utilisé. C'est l'espèce de rôle d'un ciseau, mais de spécialisé business, c'est-à-dire qu'il y a l'interface entre le grand ciseau et sa ligne d'affaires, notamment. Dans les grandes organisations, on le voit depuis longtemps. Pour ma connaissance, je sais qu'il y a des organisations qui ont appelé ça le biseau pendant longtemps. Maintenant, il n'y a pas ça de d'autres noms. Je connais d'autres grandes entreprises qui utilisent d'autres vocables pour mettre ou en tout cas qualifier ce rôle-là. Mais c'est vraiment un rôle qui est collé sur le business, donc la connaissance du terrain, qui est essentielle pour la sécurité parce que le business sait qu'est-ce qui est à protéger, qu'est-ce qui est précieux, qu'est-ce qui n'est pas précieux. Donc, ça permet d'axer les énergies aux bons endroits et c'est dans un écosystème. On parle de grande entreprise, dans un écosystème mature, on va trouver cette communication-là et ce lien-là entre le business et le volet plus normatif et technologique de la cybersécurité et d'avoir un continuum plus grand qui fonctionne bien. Par ailleurs, j'ai pas vu en carrière de déploiement de ces structures-là qui arrivait à un résultat concluant. C'est encore un peu à tâtons, là, malheureusement, ce qu'on voit, même si en Amérique du Nord, ça fait longtemps qu'on opère ce rôle-là. Il est encore un peu tâtonnant. C'est pour ça qu'il a été renommé, refait différemment, parce qu'on n'arrive pas à une situation qui convient à tout le monde ou qui permet de fonctionner avec une grande fluidité et efficacité dans ce genre de choses-là. Microsoft vient d'élargir son Bounty, son programme pour Prime à la Bug. C'est très intéressant parce que ce coup-ci, tout ce qui est service offert par Microsoft est couvert, même si c'est un tiers parti qui a conçu le composant en question qui est vulnérable. Donc, je trouve ça très intéressant parce que ça incite à ouvrir. C'était un volet qui était manquant. J'espère que les autres aussi vont abonder dans ce sens-là parce que les grands hyperscalers utilisent beaucoup, beaucoup de morceaux pour offrir leurs services. Et une vulnérabilité dans celui-ci a quand même des impacts très importants. Donc, c'est très, je trouve ça vraiment très, très intéressant, très chouette que Microsoft fasse ce geste-là justement pour améliorer la sécurité de tous, parce que c'est un peu ça notre objectif. Le MITRE, on vient de publier un nouveau top 25 des CWE, qui est essentiellement la liste des faiblesses logicielles, le top 25 des plus présentes. Beaucoup de changements dans la liste. Ça m'embête un peu, parce qu'il faut que je mette à jour mon cours universitaire là-dessus, que j'explique qu'est-ce que c'est l'importance de ces éléments-là. Donc, je devrais mettre à jour. Dernière nouvelle de cette section-là, comment durcir son Windows. Il y a un développeur qui a développé deux outils pour durcir Windows 11 Pro, je pense. Je connais mal les nouvelles versions, les paliers de version de Windows 11, mais bref, je crois que c'est la version Pro. Un, la durcir, donc ça vient changer les configurations. Puis le deuxième module, c'est essentiellement un élément de configuration pour faire du whitelisting de contrôler ce qui roule sur la machine. C'est une belle idée. J'espère que les gens vont toucher à ça parce que c'est un principe de sécurité qui est très, très vieux. Donc, d'autoriser seulement ce qui est voulu sur les machines et pas de faire rouler n'importe quoi. Donc, c'est une bonne idée. Par contre, tous ceux qui y ont touché se sont cassés les dents là-dessus parce que c'est très compliqué à déployer en entreprise. Ça ne fonctionne pas bien. Dans certaines entreprises, ils ont trouvé des structures pour arriver à des situations mitoyenne, mais c'est très compliqué. Ça demande beaucoup d'expertise de déployer ce genre de choses-là, même si c'est la meilleure façon de protéger nos postes. Donc, pour les personnes qui ont un peu de connaissances, les outils sont en open source, sont disponibles. Puis s'ils peuvent, comme les grands publics peuvent commencer à toucher ça un peu, ben je pense qu'on va régler beaucoup de problèmes, puisqu'on n'a pas besoin de mettre à jour des signatures ou des choses comme ça, puisque seul le code autorisé fonctionne. Par ailleurs, les lolbin et lolbass ont le potentiel de contourner ces éléments-là, mais ça serait intéressant de voir une étude qui parle vraiment quand on a vraiment un bon whitelisting qui est fait avec les composants, voir si on est capable de contourner ou pas. Ce serait intéressant de voir des études là-dessus. Section suivante sur la vie privée. Le home office au UK a été réprimandé ou en tout cas chicané sur le fait qu'il n'avait pas divulgué que ses algos de reconnaissance faciale étaient biaisés. Dans ce cas-ci, je trouve ça un peu étrange parce que dans un univers où on essaie de limiter les biais de l'intelligence artificielle, que ça ne soit pas diffusé, qu'il n'y ait pas amélioré les logiciels en question, je trouve ça un peu bizarre comme concept. C'est pas sans rappeler que on a un pilote canadien aussi sur la reconnaissance faciale chez les policiers sur le terrain, ce qui n'est pas très glorieux, mais dans cette perspective-là, où ça, c'est un exemple où un biais n'a jamais été remonté et n'a pas fait attention. Et l'humain a tendance à être paresseux. Si on regarde la nouvelle de Gartner sur les navigateurs AI, ben, comme l'humain est paresseux, ben, essentiellement, il va se fier à la machine et ne viendra pas revérifier, malgré que le projet pilote canadien dit qu'il y a toujours un humain qui va vérifier. J'ai des doutes que ça dure dans le temps, l'humain étant ce qu'il est. Il faut mettre des mesures structurelles pour empêcher que ça fasse ce genre de choses-là. Là, cette nouvelle-là, en tout cas, bref, c'est hacker. Les pirates peuvent utiliser certaines fonctions de WhatsApp ou Signal pour extraire de l'information privée des utilisateurs. Le titre est beaucoup plus glamour que le contenu de l'article, en tout cas de ce que j'ai trouvé dans l'article. Je n'ai pas trouvé tant d'informations privées que ça qui étaient divulguées. Mais essentiellement, WhatsApp et Signal interagissent avec un utilisateur tiers qui envoient des messages directement puisque les deux sont potentiellement avec des numéros de téléphone. Donc, peut interagir, demander des modifications sur des messages qui n'existent pas ou envoyer des réactions sur des messages qui n'existent pas. Et ça permet de d'avoir une réponse du logiciel qui est installé sur le téléphone. Par ailleurs, il n'y a pas d'informations privées tant que ça. En tout cas, moi, ce que j'ai vu qui revenait dans cette communication-là, l'article met beaucoup d'emphase sur le délai des retours, donc le savoir si l'appareil est ouvert ou fermé. C'est à peu près le seul élément qui ressort de cet article-là. Fait que le titre est un peu extraordinaire par rapport au réel. Puis c'est un énorme problème. Là, puis ça fait plusieurs mois là, que je fais ce bloc d'actualité-là. Puis c'est très difficile de filtrer toutes les choses qui sont dites de revenir au réel. Il y a beaucoup de publications qui ajoutent beaucoup d'extraordinaire dans des choses qui sont assez banales. Donc, c'est assez difficile de trier ce qui se passe là-dessus. C'est vraiment un gros travail de fond. Puis, des fois, j'en échappe. J'ai arrivé des fois où j'ai passé des nouvelles qui étaient plus ou moins contre-vérifiées, là, mais à la quantité, ça devient très, très difficile de réussir à tout attraper là, ce qui en est. Excusez-moi, j'essaie de faire mon passé de ce côté-là. Sous-section identité dans Privacy. L'identité numérique au UK fait beaucoup parler. L'IFF mentionne un certain nombre d'éléments disent qu'il y a le problème avec cette identité numérique-là. Puis l'essentiel, c'est que ça essaie de régler un problème en utilisant des moyens technologiques au lieu d'utiliser des moyens structurants et de ne pas faire reposer que sur la technologie. Donc, c'est un peu une mauvaise... L'outil devient la solution. Là. C'est un peu mal de ce côté-là. Fait que c'est une mauvaise approche. On le voit souvent, malheureusement, là, qu'on va essayer de résoudre un problème avec la technologie au lieu de regarder le problème, trouver les solutions et utiliser des moyens technologiques, un ou des moyens technologiques, processus humain, peu importe, légaux, pour réussir à régler le problème. Dans ce cas-ci, parce que la magie va se passer par ça. Fait que c'est un des énormes problèmes qui est avec cette technologie-là. Donc, c'est peut-être faire un pas de recul pour prendre le temps d'analyser, de regarder ça correctement. La vérification de l'âge, puis c'est un autre article de l'IFF. C'est intéressant parce qu'il amène sur le fait que ça va beaucoup plus loin de ce que je chiale beaucoup sur le fait là, les différentes lois qui viennent justement éviter que les jeunes sont en contact avec de la pornographie, qui sont en contact avec des choses, des textes hostiles, des médias sociaux, ou tout dépendant de ce que c'est. Donc, c'est très intéressant de lire l'article parce qu'il est plus complet que ce que je chiale d'habitude, mais quand même, ça aligne beaucoup avec le fait que je trouve qu'on met pas les éléments aux bonnes places pour arriver à résoudre un problème, parce qu'il faut effectivement résoudre le problème de la pornographie, l'accès à la pornographie chez les jeunes. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, des études. Puis ça, il n'y a aucun doute. Par ailleurs, c'est le moyen qui est utilisé, puis la vérification de l'âge n'est pas comme montrer sa carte d'identité aux dépendants. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et juste du fait que le commis fait une évaluation en nous regardant si on a ou plus ou moins l'âge de ça. Et ça, il y a un doute, il nous pose la question, il demande une pièce d'identité. S'il n'y a pas de doute, ben, il ne nous pose pas de questions, puis on continue le droit. Sur Internet, c'est beaucoup plus difficile à faire ce genre de stratégie-là. Donc, bref, on s'expose à ça. Il y a justement l'Australie, puis ça, c'est la nouvelle suivante, qui a banni les médias sociaux pour les 16 ans et moins. Ça va être intéressant de voir. Autant là aussi, je suis d'accord que la façon que les médias sociaux vont défaire les cerveaux des jeunes, c'est pas bon. Puis d'ailleurs, on le voit avec le fait que les grands propriétaires, notamment des médias sociaux américains ou le Silicon Valley, ne permettent pas à leurs enfants d'accéder à ces technologies-là. Donc, c'est quand même un signe qu'il y a un certain degré de toxicité associé à celle-ci. Donc, je suis d'accord avec l'idée de ça. Par ailleurs, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là, ça dit déjà que les gens sont capables de tout contourner et tout ça. C'est pas un système qui se veut parfait. Dans ce cas-ci, c'est un système qui n'exige pas de preuve d'identité, à moins qu'on ait été attrapé, qu'on ait été perçu comme ayant moins de 16 ans dans ce cas-ci. Mais de voir comme ça, fait que c'est un cas dérivé, mais quand même qui est dans la même sphère de regard que l'IFF mentionne au niveau de la vie privée. Donc, c'est intéressant de regarder, fait que voir comment ça va évoluer, comment ces choses-là vont se matérialiser et comment Cette expérience de l'Australie va mener peut-être des réflexions un peu plus justes sur la façon de limiter l'accès à des sites qui sont non désirés pour les enfants, qui vont potentiellement mener à des problèmes ou à des problèmes de croissance. Les législateurs américains s'inquiètent de la vie privée par rapport aux caméras de sonnettes de maison, notamment la Ring de Amazon, qui c'est essentiellement ça. Donc, je trouve ça intéressant que les législateurs américains s'intéressent à ça parce que ça sert les corps de police. C'est comme des agents de surveillance. Donc, on a comme une confrontation entre deux éléments, puis surtout aux États-Unis, où la vie privée, de point de vue global, est malmenée, mais dans certains États, et de façon beaucoup plus renforcée. Donc, c'est intéressant de voir, mais de ramener cette discussion-là qu'il faut arrêter de vendre les informations de tout le monde tout le temps, partout, comme le modèle américain s'est monté au niveau des technologies et comme ça qu'ils vont beaucoup faire d'argent et beaucoup de favoriser le développement technologique, mais des fois qui n'est pas toujours bon pour tout le monde. Nouvelle de Corbyn sur le fait que d'effacer son téléphone cellulaire devant les douaniers américains, c'est pas une bonne idée. Sur le fait qu'il y a quelqu'un d'Atlanta qui a effacer son cellulaire devant les douaniers parce qu'il a pris panique, parce que ceux-ci voulaient le fouiller. Et ensuite, il a été poursuivi par le DHS et le FBI sur le fait que c'est entrave et tout et tout. Je trouve ça particulier parce que clairement, cette connaissance, en tout cas, parce que je suis un peu moins outré que Corbyn peut l'être dans son article sur le fait que la zone frontalière américaine est une zone de non-droit, puis ça fait plusieurs années que c'est connu, parce que ça fait très, très longtemps. Peut-être que c'est pas suffisamment connu par ailleurs, mais c'est un élément qui était largement étudié, le fait que la zone frontalière américaine est une zone de non-droit. Et justement, il fallait pour le vivre, là, c'est le fait que jusqu'à tout récemment, les Canadiens n'avaient pas tant de difficultés pour passer très, très facilement les contrôles frontaliers américains. Maintenant, c'est un peu différent, mais à une époque, c'était très facile. Et donc, on n'avait pas l'impression que c'était une zone de non-droit. Les Européens, c'était un peu plus difficile de passer les douanes américaines, mais quand même assez facile, somme toute, jusqu'à tout récemment aussi. Donc, dans ces moments-là où tout roule bien, ça ne pose pas cette réflexion-là sur la zone de non-droit. Mais c'est un fait, c'était largement étudié. On n'a pas le droit d'avoir un avocat, on n'a pas le droit de reculer. Si on recule, on va se faire accuser. Il y a beaucoup, beaucoup de règles associées avec la zone frontalière américaine. Donc, c'est très important de les connaître et pas de présumer des choses. Donc, dans ce cas-ci, ça, puis on peut être fouillé sans support. Et puis, ils ont le droit de fouiller dans nos appareils. On a beaucoup, beaucoup de droits, les douaniers américaines, ou en tout cas beaucoup de capacités par rapport aux douaniers dont on regarde dans un contexte canadien, où la Cour suprême a tranché sur un certain degré de protection des gens qui sont même quand ils sont dans la zone frontalière à ce moment-là pour rentrer au Canada. Donc, c'est je suis un peu fasciné par sa surprise parce que moi, j'ai zéro surprise, mais en même temps, effacez pas ou posez pas un geste devant un douanier qui pourrait le mettre suspicieux. Et c'est surtout aux États-Unis qui sont très nerveux ces temps-ci. Et qu'une des directives du président sur d'être très, très rigoureux dans les questions. Donc, il a peur de l'étranger. Donc, ça nous amène un peu dans cette zone-là. Fait que donc, soyez prudents ou notamment comme Corbyn le mentionne, restez chez vous. Ça va vous régler ces problèmes-là. Puis, c'est un peu l'approche que je prends pour les États-Unis. En tout cas, du moins, à moins que je sois vraiment obligé pour le travail. Il n'est pas prévu que j'aille aux États-Unis dans un avenir rapproché, justement parce que je ne veux pas m'exposer à des fouilles intempestives potentielles de ce genre de choses-là. Bref, comme ça, la vie privée du Canada s'inquiète de certains panneaux publicitaires qui ont des équipements de reconnaissance faciale. C'est pas la première fois qu'on a ce genre de nouvelles-là au Canada. Ça revient souvent. Ces nouvelles-là, on l'avait eu dans certains centres d'achat. Là, on a certaines zones à Toronto. Donc là, c'est le commissaire canadien qui intervient dans ce cas-ci. Et de regarder comme ça, fait qu'il y a une enquête qui est ouverte, voir. Mais on voit clairement que l'appétit pour ce genre de choses-là ne diminue pas parce que ça fait déjà plusieurs années, ça fait plus que 5 ans qu'on en parle. Puis ça revient encore même au Canada, ce genre de situation-là. Dernière nouvelle de cette section-là, Firefox a fait un sondage et il n'y a que 16% des gens qui croient qu'ils sont encore en contrôle de leur choix sur la vie privée. Donc, c'est un malheureux constat de savoir que les gens ont un peu lâché la serviette sur le fait de défendre la vie privée en ligne. Section sur l'information warfare. C'est intéressant parce qu'il y a plusieurs éléments là-dedans qui viennent un peu changer la donne. Le premier, c'est un très bel article de Verge sur le fait qu'on est en train de perdre la bataille sur la désinformation. Puis c'est très intéressant au point de vue américain sur le fait que la droite américaine s'est longtemps plaint que les médias sociaux les censuraient. Et maintenant, on se rend compte que cette bataille-là a amené à plus de censure et non la réduction de la censure. Donc, c'est un peu malheureux, tous ces éléments-là, comme c'est fait, et tous les organes non gouvernementaux ou gouvernementaux qui permettaient de surveiller l'augmentation de la désinformation, ces éléments-là ont été démantelés, notamment aux États-Unis et pas exclusivement aux États-Unis. Donc, on est en train de perdre qu'on perd notre capacité à lutter contre la désinformation, puis on le voit bien aux États-Unis à l'heure actuelle sur le fait que c'est très utilisé dans la politique interne, ce qui est un peu malheureux quand on voit ça de l'extérieur, bref, d'un côté. Puis en même temps, puis là, ça, c'est les deux nouvelles suivantes sur le fait que la Russie est un moteur assez puissant de désinformation. En Europe notamment, mais pas exclusivement, pour mener à bien ses objectifs, autant d'interférer dans les élections, autant d'interférer dans les différentes nouvelles ou dans différents pays, avec l'usage notamment de l'intelligence artificielle pour industrialiser encore plus leur capacité à faire le travail comme ça. Donc, on le voit dans un grand écosystème, fait qu'on, si on perd notre capacité de lutter contre la désinformation, il n'y a pas que la droite américaine qui va s'en trouver soulagés parce que c'était leur cheval de bataille, mais le fait que les acteurs étatiques hostiles à l'Occident vont l'utiliser contre nous, ben on se retrouve à être beaucoup plus perdants dans l'ensemble qu'une simple petite bataille sur ce qui était supposément de la censure et qui n'a pas encore d'appui scientifique probant pour dire qu'il y avait effectivement de la censure sur la droite américaine, mais c'est pas exclu qu'en ait eu aussi, comme là, il y en a de la censure sur d'autres choses de toute façon. Donc, on gagne zéro là-dedans. Mais bref, puis c'est intéressant de voir que l'Allemagne a évoqué l'ambassadeur russe et que l'Angleterre fait justement des discours sur la place de la Russie dans la désinformation. Donc, de les voir que les pays européens prennent position et qu'il n'y a plus de diplomatie sur le fait de déclarer la Russie comme étant un acteur hostile pour vrai et avec des intentions hostiles sur l'Occident. Donc, c'est intéressant de voir ce changement de cap-là dans un contexte où en Occident, perdu le contrôle de la désinformation, comme le mentionne notamment le premier article de cette section aussi, de commencer à le dire ouvertement que ce pays-là agit contre nous, puis d'arrêter de faire semblant. Je pense qu'on est dans un pas pour régler le problème, puis que ce pays-là arrête de faire ce genre de choses-là et qu'on se retrouve à restabiliser correctement les différents éléments. Dernier article de cette section-là, il dit ça coûte combien de bouleverser une élection. Je peux faire une traduction comme ça. Puis ça parle essentiellement du coût des cartes SIM pour la création de faux comptes de médias sociaux et à quel point les comptes de médias sociaux sont instrumentalisés pour effectuer la désinformation. Puis c'est fascinant en même temps que tous ces outils-là qui sont essentiellement américains, qui servent les tech bros aux États-Unis, qui sont des agents de renseignement puissants pour les États-Unis, puisque la quantité d'informations qu'ils ramassent sont énormes, que les data brokers s'y alimentent aussi, que tout cet écosystème-là, puis finalement, ben, ça sert contre sa propre population. Donc, ça, moi, je trouve ça un élément très fascinant à quel point on est dépendant de ces grandes technologies-là et pourquoi elles ont Facebook, Instagram, Twitter ou X maintenant. Toutes ces technologies-là ont tant d'espace dans l'esprit public et à quel point finalement ces compagnies-là ont un impact très important sur la vie des citoyens de beaucoup de pays, notamment en Occident, mais pas exclusivement, parce qu'ils sont très présents aussi en Asie, mais dans d'autres contextes. Donc, c'est très, très fascinant. Bref, mais ça coûte que quelques dollars acheter une carte SIM. Donc, d'avoir des faux comptes, c'est pas très, très, très dispendieux. Et on le voit aussi avec les fermes qui ont été fermées aux États-Unis. On a eu des nouvelles, hein, il y a quelques semaines, qui parlaient de fermes de cellulaires qui servent essentiellement à faire ce genre de choses-là et non à casser, à faire tomber des tours, mais vraiment à créer des faux comptes et toute cette structure-là de validation qui est faite, qui était trompée par les méchants depuis déjà longtemps. Dans la section, c'est divers. J'ai deux petites nouvelles qui sont intéressantes. Que je n'irai pas nécessairement en profondeur sur le contenu, mais juste de vous installer les lire. La première, c'est qui parle du obsèque, un mauvais obsèque qui est nuisible. Puis là, il prend des exemples. Puis l'angle d'analyse, c'est juste de dire que c'est un mauvais obsèque, puis le prendre en exemple, c'est pas suffisant. Il faut le faire avec une grille d'analyse qui permet justement de descendre et d'analyser correctement le mauvais obsèque et de tirer les leçons qui sont adéquates pour ce genre de choses-là. Et on le voit souvent dans beaucoup de nouvelles qui est ramenée que l'analyse se limite qu'à pointer du doigt sur le mauvais obsèque ou le mauvais élément et de ne pas apporter une grille d'analyse qui permet d'analyser la situation et d'en tirer les leçons apprises qui sont nécessaires par rapport à ça. Avoir un enseignement nécessaire à ça. Fait que lui, il y a beaucoup d'informations sur justement cette analyse-là. C'est intéressant. C'est pas nécessairement un article qui est. Bref. Pas nécessairement dans l'actualité, mais c'est très intéressant. Puis, est-ce qu'on devrait faire confiance à la localisation des sorties VPN? La réponse est non. La plupart des fournisseurs VPN ne font pas sortir le VPN nécessairement dans le pays dans lequel il est indiqué. Et le truc qui est fait, c'est que les adresses IP sont géolocalisées sur la base de déclarations volontaires des fournisseurs, ce qui fait que des fois, certaines adresses qu'ils ont vont dire, puis l'exemple qui est donné à l'article, c'est les Bermudes, notamment, en tout cas, c'est cette zone-là. Mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont avoir des adresses aux États-Unis, puis qu'on les adresses IP, puis les déclarer dans le pays en question. Ce qui fait que d'un point de vue contournement des contrôles de géolocalisation, ça arrive à l'objectif. Si c'est pour cacher votre identité d'un pays hostile, ça ne fonctionne pas, notamment quand les sorties sont aux États-Unis. Les Américains ont toute la capacité d'attraper tout le contenu à ce moment-là, donc vous n'avez pas zéro protégé. Si c'était votre objectif, soyez prudent. Fin des nouvelles. Ça fait encore un très gros épisode, encore beaucoup de nouvelles, il y avait beaucoup de choses. Ça prend beaucoup de temps à exécuter ça aussi, fait que là, je me pose beaucoup de questions sur comment je vais suivre ça, parce que c'est très long, très difficile de filtrer la quantité de nouvelles que je me retrouve à lire et de tracer le vrai du faux. Je vais me poser des questions dans les prochaines semaines. De toute façon, c'est un projet expérimental quand j'ai démarré. Donc, je vais voir ce que je fais avec. Et encore une fois, ben, j'attends vos retours, vos idées d'amélioration, qu'est-ce que je peux faire, où ça peut aller, tout ça. Puis encore, j'ai encore fait presque une heure. C'est une nouvelle semaine tout à fait exceptionnelle. Sur ce, je vous dis à la prochaine.